Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, avant Stromae, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est le comédien et écrivain Bruno Solo pour son nouveau livre Les Visiteurs d'Histoire. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis pour clore l'émission, ce sera Marc-Antoine Lebré. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous. Nicolas Carreau, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les phénomènes médiatiques et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur la nouvelle série à succès de Netflix que vous avez regardée hier, Squid Game.
Oui Philippe Carreau, au-delà d'un simple succès commercial, Squid Game, en français le jeu du calamar, est en train de devenir un phénomène tentaculaire à la fois médiatique et sociétal. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien Squid Game est une série sud-coréenne qui vient tout simplement de battre le record du meilleur démarrage de tous les temps sur Netflix. En 17 jours, 111 millions d'abonnés à la plateforme l'ont déjà vu. C'est plus que Lupin et la Casa des Papel réunis. Voilà, ça c'est juste un tout premier chiffre pour vous fixer les esprits. Et maintenant...
La partie peut commencer.
Alors, commençons précisément par la partie qui nous intéresse le plus ici, Philippe, la partie médiatique. Car la série passionne les médias du monde entier qui tentent de saisir le phénomène. Aux États-Unis, CNN a interviewé ce week-end le réalisateur pendant plus de 2 heures. Et en France, Libé, Libération, y a consacré sa une et ses 5 premières pages avant-hier, après que... Lundi matin, sur CNews, au détour d'un petit débat sur une enseignante agressée par un élève dans un lycée de banlieue, Jacques Séguéla, jamais en retard d'une fine analyse, a lui aussi évoqué Squid Game pour en dire ça.
Mais quand on autorise la série coréenne, monstrueuse, qui est aujourd'hui le spectacle préféré des jeunes, qui se vend le plus, qui est insupportable à regarder de violence, ouais. De négation de l'humanité, de négation des valeurs. Mais finalement, on arrive là.
Voilà, il a mentionné la violence et la monstruosité des images censées influencer les jeunes et les inciter à taper sur leurs profs. Rien que ça. Alors après avoir entendu ça, il faut, je crois, remettre les Rolex à l'heure. Car oui, Squid Games est une série ultra violente. Oui, elle se vautre allègrement dans l'hémoglobine et le suspense sadique le plus insupportable.
Vous avez tué ces gens !
Mais non, ça n'est pas pour cette unique raison qu'elle rencontre un succès planétaire. Car ce qui a manifestement échappé à Séguéla, c'est la dimension allégorique de Squid Game. Ça n'est pas qu'une série trashissime, c'est aussi une série qui nous parle d'argent.
Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent.
Et surtout, des ravages que produit sur nos sociétés en crise, le fait pour les plus précaires d'entre nous de ne pas en avoir. Le scénario de Squid Game est aussi simpliste que brutal. 456 personnes participent à un jeu pour tenter d'empocher l'équivalent de 33 millions d'euros. Un seul candidat gagne et tous les autres sont tués, butés, massacrés.
Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.
Seulement voilà, ces 456 personnes présentent toutes une sacrée particularité. Elles sont surendettées.
Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser.
Elles ont été victimes de la pub, des crédits à la consommation, de la fragilité de leur petit boulot, bref, du monde que des hordes de Séguéla ont bâti pendant des décennies. Car dans Squid Game encore, les candidats ne sont plus que des numéros, pendant que ceux qui tirent les ficelles et organisent le jeu portent des masques d'escrimeurs. Ils sont ainsi totalement anonymes, aussi anonymes que les actionnaires des multinationales qui se frottent les mains tous les jours devant les cours de bourse. En fait, Philippe, je crois que Squid Game est tout simplement le brûlot le plus anticapitaliste du moment. C'est moche, ça éclabousse, ça effraie le bourgeois, mais ça touche tous ceux qui trouvent que la violence sociale qu'ils subissent est bien plus indécente que celle qui pique les yeux du malheureux Séguéla.
Merci beaucoup Bruno Donnet, je vous dis à lundi, bon week-end. Laurent Mariotte, rebonjour. Votre indispensable travaux, rénovation ?
Du miel.
Ah bon,
du
miel. Vous aviez un masque de plâtrier.
Oui, c'est le seul masque que j'ai trouvé, c'est vrai qu'il est, c'est un prototype. Ouais. Ça fait un an que je le porte, il marche très bien, j'en suis content.
Non, il faut les changer.
Ah pardon.
Blague à part, le
du
miel.
Du miel, absolument, on produit plus de 40 variétés de miel en France et je vous ferai même croquer dans du miel.
Waouh, formidable. Nicolas Carreau ?
Moi, je vous dis rien, mais je vais vous parler d'un avocat que les auditeurs d'Europe 1 connaissent
très bien, et de Sylvie Vartan, les deux en même temps. Et c'est lié.
Dans un instant, Bruno Solo avec nous pour parler de son livre Les Visiteurs d'Histoire. Mais d'abord, événement, c'est la sortie aujourd'hui du nouveau single d'Adèle, le premier en 6 ans, on vous l'avait promis. Single qui annonce son prochain album à venir, il va s'appeler 30, enfin en français. On écoute Easy On Me sur Europe 1. Easy on me, c'était Adèle sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Philippe.
Vous êtes batteur et accessoirement acteur, réalisateur, producteur, scénariste, batteur, bon batteur.
Batteur, on dit.
Je vous ai vu à la batterie. Au cinéma, La Vérité si je mens, fiction télé, caméra café, mais aussi des rôles plus graves, pas forcément dans le divertissement. Et puis il y a La Guerre des Trônes, série historique, documentaire sur France 5. Et justement, vous restez là et on va rester dans le domaine historique. Votre actualité, c'est un livre, Les Visiteurs d'Histoire, c'est aux éditions du Rocher. Quand l'histoire de France s'invite chez moi, c'est le sous-titre. Si j'ai bien compris, tout est parti du confinement, vous étiez chez vous avec du temps libre et avec votre passion pour l'histoire. C'est quoi l'idée de ce livre ?
C'est ça, en fait, le thème est venu avant. Le livre, j'ai commencé à le concevoir il y a 2 ans et demi. Et pendant le confinement, je me suis dit, tiens, ce serait un bon thème d'imaginer que ces personnages dont j'avais décidé de parler soient réunis autour d'une table. Et ça, effectivement, le confinement m'a permis d'imaginer un dîner idéal, sans gestes barrières, sans consigne de sécurité, parce qu'avec des morts, a priori, vous n'êtes pas infectés. Voilà, mais il fallait que mes morts soient bien vivants, et c'était ça. Donc le thème est venu après, mais j'avais commencé l'écriture en amont.
Qui sont les personnages et comment les avez-vous choisis? Parce que je dois préciser, il y en a 11, vous avez évité les grands classiques, il n'y a pas Cléopâtre, ni Jules César, ni Louis XIV, ni De Gaulle, ils ne sont pas invités. Comment avez-vous choisi les personnes qu'on trouve dans ce livre, les personnages?
Je les ai choisis. En fait, j'ai fait une liste beaucoup plus conséquente. Et puis après, les historiens, les chercheurs, et notamment Pierre Lévesque, qui est le chef d'orchestre de tous les gens qui ont travaillé autour des recherches sur ce livre, m'ont dit, écoute, sur celui-ci, on a peu d'informations. Là, on n'a rien de véritablement nouveau. Il fait qu'à chaque fois, j'ai de la matière pour pouvoir inventer ce dîner, puisque je discute avec eux. C'est un échange. Hein. Mmh. C'est un échange, je parle. Des fois, ils me contredisent. Des fois, c'est moi qui les contredis. Je raconte leur vie. Et en même temps, voilà, il fallait que j'ai de la matière. Et on est arrivé à une shortlist de 11 personnages. Et 11 personnages qui soient liés aussi à mon histoire personnelle, la manière dont ils ont traversé ma vie, la manière dont ils m'ont accompagné, la manière dont je les ai vénérés, parfois idolâtrés. Là, justement, en parlant de certains, je me rends compte que je les ai peut-être idolâtrés à tort ou excessivement. Donc, il fallait qu'ils soient en résonance avec ma vie aussi, puisque ma vie est traversée par l'histoire depuis aussi loin que mes souvenirs remontent.
Alors, Georges Mandel, Louise Michel, je connaissais, le Chevalier des
Rois
également.
De Gaulle, j'en parle au travers de Georges Mandel.
Aliénor d'Aquitaine, je connaissais. Mais alors, qui était Alcuin?
Alors Alcuin, c'est l'écolâtre et le conseiller de Charlemagne. C'est lui le véritable inventeur de l'école qui a poussé Charlemagne à faire en sorte que l'école appartienne à chacun pour que les esprits s'élèvent.
Et alors, chapitre qui m'a passionné, Christine de Pisan, qui était-elle? Je vais donner ses dates de naissance, c'est de 1364-1430, donc elle est à cheval entre le 14 et le 15e siècle. Qui était-elle, Christine de Pisan?
C'était une philosophe, écrivaine, sans aucun doute, dans le monde occidental, peut-être la première femme qu'on peut considérer comme une militante féministe. Alors un féministe qu'il faut contextualiser, évidemment. Évidemment, oui. Hein, à l'époque où
c'est
elle
anachronique, le mot n'existe pas.
Et voilà, c'est anachronique, le mot n'existe pas. Mais c'est vrai qu'elle essaye de mettre la femme au centre des débats et de la société en lui donnant justement l'importance qu'on ne lui donnait pas dans ces époques-là.
Elle était la première femme
à avoir vécu de ses écrits.
Exactement, très amoureuse de son mari, qui meurt alors qu'elle est très jeune. Elle a 3 enfants sur les bras et contrairement aux femmes de son époque, elle refuse de se remarier, donc une femme libre. Alors ce qui m'a évidemment encore plus passionné ici dans Culture Média en tant que journaliste, c'est Théophras Renaudot. Peut-être le premier journaliste français, on dit toujours la Gazette de Théophras Renaudot. Il est mort en 1653. C'est à cause de lui, ou grâce à lui, que le prix qui récompense un roman écrit par un journaliste, c'est le prix Renaudot. Absolument. J'ignorais qu'avant de fonder un journal, il avait été médecin.
Ah oui, sacré médecin, même il a même plus qu'un médecin, il a quasiment inventé la sécurité sociale, il a inventé la médecine, par correspondance, il a
la télémédecine,
enfin c'était un philanthrope extrêmement éclairé et en même temps un hâbleur, un serviteur du pouvoir parce qu'il a beaucoup écrit sous l'influence de Richelieu, il a travaillé pour Richelieu mais avec des infos de première main même si elles étaient un peu orientées. Donc c'est un mélange d'hâbleur et de philanthrope trop éclairé, c'est pour ça qu'il est fascinant.
Je l'ai appris grâce à vous. Le premier numéro de la Gazette paraît le 30 mai 1631. Quatre pages bien serrées, dites-vous, avec des nouvelles des quatre coins de l'Europe. Et donc, sa source, c'est Richelieu et ses ministres.
Richelieu et ses ministres qui lui filent des infos. Alors, de temps en temps, il essaie d'être un peu objectif, mais il est très vite rattrapé par Richelieu qui lui dit « Non, t'es gentil, mais tu... » Voilà. En fait, c'est la Pravda, quoi, ouais. La Gazette au début. D'ailleurs, la Gazette, elle est morte pendant la Première Guerre mondiale en ayant toujours été un peu au service un peu du pouvoir.
Non, mais j'ignorais, elle a tenu 3 siècles,
ouais,
jusqu'en 1915.
Oui, et ses fils l'ont... D'ailleurs, ça, c'est très drôle, parce que quand il y a eu la Fronde et que Louis XIV a dû fuir Paris, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très drôle, parce qu'il a demandé à ses fils de faire un journal d'opposition qui soutenait la Fronde en se disant « Si jamais la Fronde l'emporte, je reviens dans le jeu. Et si la Fronde ne l'emporte pas, comme c'est mes fils, le journal s'écroule et on remet la Gazette en avant. » C'est ce qui s'est passé parce que finalement, la Fronde s'est écroulée. Louis XIV est revenu au pouvoir avec Colbert. Voilà.
Il a même fait un truc aussi étonnant que ça puisse paraître, Théophras Renaudot, il a inventé
avec
la publicité.
Louis XIII et Mazarin, pardon. Colbert, c'est plus tard. Pardon.
J'osais pas vous le dire parce que je connais plus longtemps et je voulais pas vous
le dire. Dans la frénésie.
Blague à part. Il invente la publicité Théophras Renaudot.
Ouais.
On marque une courte pause. Vous avez vu que je suis dans le sujet. Lisa Marie Marquez, le portrait de Bruno Solo. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien Bruno Solo, mais là on parle de son livre Les Visiteurs de l'Histoire. On va mieux
Les
vous
visiteurs
connaître.
D'histoire.
D'histoire. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Bruno Solo.
Bonjour Lisa Marie.
Vous êtes un touche-à-tout de talent. Vous passez d'un genre à l'autre, à l'écran ou sur les planches. Vous avez incarné Pierre Mendès France et Napoléon. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bruno Solo, vous êtes né un 23 septembre, une date particulière. C'est le jour où, d'après les statistiques, il y a le plus grand nombre de naissances.
Vous savez pourquoi?
Oui, j'imagine que ça a rapport avec la cuite qu'on prend le 31 décembre.
C'est 9 mois après le 31 décembre.
On est les enfants de l'amour et de l'alcool, quoi.
Ouais. Attendez, vous savez qui est né le 23 décembre?
Oui, alors je sais, Bruce Springsteen.
Ouais.
23 septembre, 23
ouais.
septembre, vous voulez dire. Bruce Springsteen.
Cyril Hanouna, Éric Antoine, Patrick Fiori, Guillaume Durand. Et moins drôle, Jean-Daniel Flézaquier qui a été inhumé hier, dont je salue
oui,
la famille.
Oui, mais Springsteen et Romy Schneider, vous oubliez. Vous avez fait exprès d'oublier. C'est mes deux préférés dans la liste.
Évidemment que j'ai fait exprès.
Vous avez grandi à Paris, dans le quartier du Marais. Une enfance douce, paisible, protégée auprès de votre père, ouvrier dans le bâtiment, staffeur de
ma
métier.
Maman.
Et de votre maman,
maman,
mère au foyer, et de votre sœur aussi.
Oui.
Enfant, vous êtes curieux du monde, vous aimez lire. À la maison, vous écoutez Brassens, Bob Dylan, les Beatles, mais aussi de la musique classique. Et petit, vous vous rêvez chef d'orchestre en vous entraînant avec les aiguilles à tricoter de votre maman sur cette musique.
Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Une des plus belles choses qui a jamais été produite. Ouais. Tout art confondu pour moi.
Je suis d'accord.
C'est de la peinture, c'est de la musique, c'est de la poésie. C'est... Même l'entendre, là, ça me bouleverse à chaque fois. Je trouve que c'est une des plus belles choses qui est... Voilà.
J'ai vu en deux
secondes... Ça réconcilie avec le monde.
Vous avez les larmes qui vous sont montées aux yeux en
trois
secondes.
Ouais, c'est vrai que c'est une musique qui me bouleverse par ce qu'elle raconte, par ce qu'elle dit, puis parce que Beethoven est sans aucun doute, avec Garibaldi, l'un des personnages, si ce n'est le personnage qui me fascine le plus dans l'histoire de l'humanité. Je suis fasciné par Beethoven.
Wow.
Bruno Solo, plus tard, vous devenez batteur sans apprendre la musique et vous vous rendez compte de quelque chose.
Vous savez qui était mon bassiste dans mon groupe?
Non.
Votre serviteur, Philippe Vandel.
Ouais, on avait un groupe
on
ensemble.
On avait un groupe ensemble.
Et vous vous rendez compte d'une chose en étant batteur, la batterie c'est bien plus compliqué pour emballer les filles que les copains guitaristes qui ramènent la gratte en soirée. Et là, la magie opère.
Moi je tapais sur la table.
Oui, oui.
Tu sais, je suis le batteur. Oui, mais attends, laisse-moi, tais-toi, il chante, il est en train de chanter. Parce que souvent les guitaristes sont aussi chanteurs.
Bruno Solo, côté scolaire, vous êtes bon en français, en histoire et en géographie, mais très mauvais en mathématiques. Au lycée, vos professeurs vous félicitent pour votre mémoire d'éléphant et ils vous encouragent à vous produire sur scène. Vous savez que vous voulez devenir comédien, mais vous passez le bac d'abord pour faire plaisir à vos parents. Là commence une période de galère où vous courez les castings, mais ça ne donne pas grand-chose au début. Vous vous essayez alors au journalisme avec Concert Magazine, dont vous êtes à la fois créateur, rédacteur en chef, maquettiste, chroniqueur et unique journaliste.
La plus grande escroquerie de l'histoire de la presse.
Attendez,
hein,
je ne savais pas. C'est dans votre livre. Ouais. J'ai dit à Lisa Marie, regarde ce qu'il raconte. C'est quoi Concert Magazine?
C'était une feuille de chou où j'allais voir des concerts et je faisais les chroniques après. Après les concerts, je chroniquais des disques et en fait j'écrivais tout seul. Ça sortait dans trois kiosques. J'en ai pas vendu un et c'est pour ça que j'ai relié mon histoire minable à celle de Théophras Renaudot, inventeur du journalisme moderne et que j'ose comparer. Il me regarde avec beaucoup de condescendance et il a bien raison dans le livre.
Vous faites aussi des petits jobs en travaillant dans des librairies. Et en 1989, vous décrochez votre premier rôle de figurant dans le film de Robert Enrico, La Révolution française. Vous avez un bonnet phrygien sur la tête parmi 1500 autres figurants, place de la Concorde, le jour de l'exécution de Marie-Antoinette.
On vous voit peu, non?
Ah, on ne me voit pas. Je ne sais même pas si je pourrais me repérer. Je ne me repère pas beaucoup dans une foule. Je suis né un jour où tout le monde est né. Vous savez, je ne suis pas le mec qu'on remarque dans une foule, moi.
Bruno Solo, jeune comédien, vous arpentez les studios de télévision pour faire la claque, c'est-à-dire être payé pour applaudir.
Et ouais.
Un jour, vous êtes dans le public de l'émission Télé Zèbre de Thierry Ardisson. Le chroniqueur Yvan Le Bolloc tient sa première chronique et doit choisir quelqu'un dans le public pour faire l'arbitre pendant sa prestation, le magnétostop. Il vous demande de jouer le jeu, ce que vous faites. Après l'émission, il négocie votre présence pour ses prochaines interventions, alors que vous ne vous connaissiez pas du tout quelques heures avant.
Et ouais. Oui, ça s'est passé comme ça. Il m'a vu faire l'idiot, ça l'a fait marrer. Et il m'a dit, ça ne te dirait pas de monter sur scène. Alors qu'il avait un gros gâteau que Ardisson lui proposait. Et tout de suite, il a eu envie de le partager avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ça, c'est des amitiés qui naissent comme ça, de manière de manière soudaine et qui durent. Et la preuve, Yvan et moi, on est comme au premier jour, toujours potes.
Ainsi se forme votre duo. Suivront le Top 50 et le Plein de Super sur Canal+, et une émission de radio sur Europe 2. Ça s'appelle d'abord Tout le monde dehors, puis Tout le monde d'accord. Et vous maniez au micro avec Yvan Le Bolloc le second degré et la parodie. J'ai un extrait à vous faire écouter.
Ah, dingue.
C'est le début de votre dernière émission de Tout le monde d'accord.
Il n'y a plus rien, on n'est même pas quel jour on est.
Mercredi 1er mai.
Le jour de la fête du travail, on n'arrête, il n'y a personne dans les couloirs, c'est l'horreur. Un pas de champagne, tiens, secoue le thé, ça va faire des bulles. Bonsoir les gens, merci de nous retrouver. Effectivement, c'est la dernière de Tout le monde d'accord. L'émission qui faisait un effort chaque soir pour vous arracher un dernier sourire avant le 20h.
C'était la dernière.
Ouais, vous n'étiez pas outé. Hein.
Non, on n'était pas coté à ce moment-là. Et c'est vrai, on avait perdu la cote aussi. On n'était plus coté.
Pendant vos années radio, vous retrouvez votre batterie dans un groupe de musique aux côtés de journalistes et d'animateurs d'Europe 1. Le groupe s'appelle Nothing dans le Lemon. On écoute ce que ça donne.
Faut que ça démarre là.
Hey, faut qu'on fasse des
matins. Hey.
Alors on va m'entendre.
Pour l'instant, vous êtes un très très bon joueur de charlet quand même.
Ouais, c'est en place, hein.
C'est en place.
Vous auriez pu prendre la fin de l'introduction en montant le jeu de la batte,
mais je suis invité quand même, mince.
Bruno Solo, vous vous tournez enfin vers le cinéma, ouais. Et Fabienne Antegniente vous offre votre premier grand rôle dans Tom est tout seul. En parallèle, vous pitchez un concept au directeur des programmes des chaînes télé. C'est un programme court qui réunit des personnages devant la machine à café de l'entreprise. Malheureusement, votre idée ne convainc pas, enfin, pas tout de suite. Vous ne le savez pas encore, mais il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience. 7 ans, très exactement, pour que ce programme voie le jour sous le nom de Caméra Café. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
Et là, c'est la FM. C'est pas vous à la batterie là-dessus.
Non, mais je l'ai joué, ce morceau.
Ouais.
Je l'ai joué. Mais d'ailleurs, juste comme ça, je l'ai déjà dit, mais je crois que je vous l'avais annoncé, Philippe, il y a quelques temps, mais on va faire une spéciale 20 ans Caméra Café qu'on va tourner courant janvier.
Je m'étais gardé ça pour la fin.
Oh, pardon.
Une courte
pardon,
pause. Pardon. Non, pas pardon. Non,
comme
je suis
vous venez de parler de Caméra Café, je
merci
me suis dit
beaucoup,
c'était le moment.
Lisa Marie. Et
merci,
tout
Lisa
savoir
Marie.
Sur le nouveau programme de Caméra Café, ça sera juste après ça. Et puis on va parler de livres, on va parler de miel également. Quelle émission.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Les visiteurs d'histoire, c'est sous-titré Quand l'histoire de France s'invite chez moi. C'est publié aux éditions du Rocher et c'est écrit par Bruno Solo. C'est pas seulement signé par vous, c'est écrit. C'est assez rare pour signaler des gens qui passent à la télé qui écrivent eux-mêmes leurs livres. Combien de temps de travail ?
Concrètement, entre le moment où les éditions du Rocher m'ont demandé, parce que c'est une commande, et le moment où il s'est terminé, il s'est passé 2 ans et demi.
Et voilà. Vous avez...
Parce que c'est les historiens qui ont, par contre, et qui m'ont amené la matière. Hein. Moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien. Je suis juste un conteur, un narrateur. C'est pour ça que c'est écrit presque comme une pièce de théâtre, comme un dialogue autour d'une table. Peut-être d'ailleurs un jour j'en ferai l'adaptation, mais voilà, donc j'échange avec mes invités. Il y a de l'empathie, ce que ne peut pas faire un historien complètement, parce qu'un historien il est au service un peu du personnage, mais des faits, d'actes et tout, tandis que moi je peux avoir de l'empathie, discuter avec eux, les contredire, et eux aussi d'ailleurs.
Mais l'idée, ce que je veux dire par là, c'était beaucoup de boulot.
Oui, c'était beaucoup de boulot, ouais.
C'est beaucoup de boulot.
Ça vous a dégoûté des livres ? Non, pas du tout, ça ne m'a pas dégoûté, mais je me suis dit non, le prochain c'est un roman, quoi. Je travaille avec ma propre matière et à mon rythme et tout. Je ne serai pas tributaire effectivement du travail des autres aussi.
Ça va être quoi comme roman ?
Je ne sais pas, mais j'ai une petite idée. La matière est à l'intérieur de... Je pense que j'ai beaucoup parlé de mon papa et de ma maman, qui sont des gens tellement singuliers, originaux, et qui m'ont ouvert un peu au monde de manière...
Dans ce livre que j'ai lu, il y a une phrase géniale, il y a la devise de votre père que je vous laisse dire.
Ah ben ça dépend, il y en avait plusieurs.
Alors, mais Dieu, ni maître, ni contre-maître.
Ah oui, ça c'était sa phrase favorite. Il était ouvrier dans le bâtiment et fan de Nietzsche. Donc je trouve que cette combinaison entre ni Dieu, ni maître, ni contre-maître correspond assez bien à ce qu'il était et je veux croire à ce que je suis un peu aussi.
Il est dans notre studio, il est aussi fan de Nietzsche. Nicolas Caro, rebonjour.
Énorme lecteur, Bruno Solo. Ouais, j'ai visité sa bibliothèque grand spécialiste de littérature américaine assez pointue et tout, Colson Whitehead, tout ça. Et puis un meuble aussi très particulier.
Oui, elle était belle, ma bibliothèque. Mais j'ai déménagé, je ne l'ai plus, mais j'en ai refait une autre.
Alors Nicolas, ce matin, tout à fait autre chose, nous parlait du roman d'un auteur que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien.
Ça s'appelle « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » aux très belles éditions des Escales. Et l'auteur donc s'appelle Roland Pérez. Les auditeurs le connaissent bien parce que c'est le spécialiste du droit sur Europe 1 depuis des années. Et moi donc je le connais, Roland, il est aussi gentil qu'il en a l'air. Je vous le dis en passant, c'est un type un peu dandy comme ça, toujours souriant, prévenant, il connaît le prénom de tout le monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que sa vie est en fait un roman.
Et il a tout mis par écrit dans ce livre, c'est ça ?
Exactement. Son histoire vraie, et l'histoire commence à sa naissance, forcément. Il est le sixième enfant d'une famille juive séfarade. Sa mère Esther est un personnage assez flamboyant, héroïne du livre. Elle part accoucher comme on va acheter son pain, quasiment, puisqu'au sixième, c'est un peu la routine. Sauf que cette fois, et ben justement, c'est différent. Puisqu'à sa naissance, à la naissance de Roland, on lui annonce qu'il a un pied beau. Et elle, elle dit... Pourquoi il n'est pas beau l'autre ? Les médecins lui expliquent qu'ils ont tenté l'opération, il faut le faire très très vite, mais qu'il y a de forts risques que Roland, puisque c'est son prénom, ne marche jamais autrement qu'en boitant et avec des chaussures spéciales. Sauf qu'Esther n'est pas du genre à céder devant le réel. Commence alors une sorte de marathon chez tous les spécialistes possibles, mais rien à faire, il est trop tard, a priori c'est foutu, à moins que... Esther entend parler d'un homme capable de guérir son fils, à ce moment-là il a 5 ans, il est toujours à 4 pattes, à quatre pattes, elle trouve enfin l'adresse de cet homme providentiel qui aurait déjà aidé éventuellement peut-être plusieurs enfants. Mais quand elle sonne chez lui, sa femme lui annonce que cet homme-là est mort. Donc c'est le drame. Mais cette femme, justement, connaît la méthode de son mari, un système d'attel assez complexe et surtout une condition, ne pas bouger pendant un an et demi.
Et c'est ce que va faire le petit Roland ?
Eh ben oui. On vide la salle à manger du petit appartement HLM pour lui faire de la place et lui laisser quand même la télé. Et il attend, sans bouger de son lit. La femme qui lui a prescrit cette méthode conseille à sa mère de trouver quelque chose pour focaliser son attention, qu'il ait une bonne raison de rester à ne rien faire. Et voilà, Sylvie Vartan, on est au tout début des années 70, elle cartonne. Et Roland Pérez est dingue de sa voix, de son attitude, de tout. Alors on va chercher un manche-disque et on lui envoie les chansons de Sylvie Vartan en boucle. Si je chante, c'est pour toi. Et pour Roland Pérez, c'était vraiment pour lui. Il passe ses journées, ses semaines avec Sylvie Vartan. Il apprend à lire avec les paroles des chansons. Et un an et demi plus tard, miracle, il marche. Les années passent, il devient avocat, chroniqueur dans différents médias, dont Europe 1. Et un jour, il devient l'avocat de Sylvie Vartan. Mais il ne lui raconte pas son histoire. Roland Pérez.
Plus je la connais, plus je me dis, il ne faut surtout pas que je lui révèle cette histoire, parce qu'elle va croire que c'est la revanche d'un fan qui rêvait de travailler avec elle, qui aujourd'hui est son avocat, alors qu'elle me connaissait par ailleurs à Europe 1 notamment. Elle pensait que j'étais journaliste, que j'étais chroniqueur, que j'étais plutôt bienveillant et sympathique, mais elle ne me connaissait pas en tant qu'avocat. Elle l'a appris après, quand je suis devenu son propre avocat, mais à aucun moment je n'ai voulu lui dire, et j'ai même demandé à mon entourage de cacher cela, parce que je trouvais ça indécent.
Mais au bout d'un moment, elle a dû lire le livre, Sylvie Vartan.
Mieux que ça, elle en signe la postface.
Et donc, c'est un livre sur la résilience, si on a bien compris.
En partie, mais Roland Pérez ne l'a pas publié exprès chez un éditeur de témoignages. Vous savez, il le publie aux Escales, qui est une maison très littéraire. Il voulait en faire quand même une sorte de roman, même si tout est vrai. Et il a bien fait parce que ce livre n'est pas seulement l'itinéraire d'un enfant qui a souffert avec du pathos et tout ça. C'est un superbe portrait de sa mère, d'abord, et puis d'une époque aussi. Et on rigole beaucoup.
Histoire de dingue aussi. Je connaissais Roland Pérez, j'ignorais complètement cette histoire. Bruno.
Ah oui, j'aime beaucoup la thématique du livre, j'aime beaucoup l'idée de ramener, de romancer sa vraie vie et tout. Je trouve ça très beau et voilà, ça m'inspire beaucoup. En plus, le titre, il est formidable. On dirait un titre de la Woody Allen.
Ah oui, exactement.
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Et le petit bonhomme qui ne peut pas bouger pendant un an et demi avec son manche-disque. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Laurent Mariotte, du miel. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bruno Solo, les visiteurs d'histoire, vous invitez à votre table des personnages historiques qui vous ont fasciné. Il manque un truc dans votre livre, alors j'ai pas trouvé la page. C'est quoi le menu ?
Alors le menu, il est comme mes invités, genre il est fantôme.
Ah d'accord.
Mais je parle de cuisine de temps en temps, avec surtout Clovis. En fait, ça parle plus de picole que de bouffe.
Ça, j'ai bien compris, ça ne m'avait pas échappé, c'est vrai. Ouais. Laurent Mariotte, l'enchaînement est tout trouvé.
Ben dis donc.
On va parler de gastronomie avec vous.
Mais avec plaisir.
Mais ça reste un repas.
Ah mais ouais, comment ?
Ce serait génial, un repas imaginaire. Ah chacun s'inventerait son menu idéal.
Ben on est d'accord.
Les températures baissent un peu.
Il n'y a pas de vaisselle, surtout.
Les premiers arrivent et vous nous emmenez faire le tour du miel ce matin.
Oui, ça tout saute un petit peu.
il y a des petits refroidissements, des petits rhumes. Donc toujours dans ces cas-là, le petit réflexe, le pot de miel. 9 Français sur 10 consomment régulièrement du miel. Ils en consomment minimum 1 à 2 pots par an. Donc on peut le mettre effectivement dans du lait chaud, ça, le soir, pour le rhume, c'est parfait. Ou comme vous, tous les matins, un petit grog, hein, avec le rhum, du jus de citron et de l'eau chaude. Ça, c'est très très bon, ça. Et devinette, vous savez quel est le miel le plus consommé en France ?
D'acacia ?
Oui, exactement.
Ouais, je m'en doutais.
Bravo. Oui, parce que c'est le miel le plus doux, en fait. Ouais. Il est assez neutre, il est très enveloppant et on peut l'utiliser en pâtisserie. Donc, le miel d'acacia, il a la cote.
Ouais. C'est pas mon préféré.
Mais ça remonte à quand, le miel ? Parce que lui, il remonte dans son bouquin à Clovis, et bien avant Clovis.
Hein. Bah, oui, depuis la nuit des temps. En préparant cette séquence, j'ai remarqué qu'on avait découvert une peinture rupestre dans la grotte de l'araignée, c'est près de Valence, en Espagne, qui date d'environ 7000 ans avant Jésus-Christ. Et on voit une figure humaine suspendue à trois lianes qui récolte du miel entouré de quelques abeilles. Donc vous voyez, 7000 ans avant Jésus-Christ, c'est le premier sucre de l'humanité, le miel.
Évidemment. Alors vous parliez du miel d'acacia, il y a combien de types de miel en France ?
Il y en a beaucoup, on pourrait dire presque autant que de plantes si on veut aller par là, mais toutes les plantes ne sont pas mellifères. Il y a 40 types de miel qui sont produits en France, alors miel de romarin, miel de lavande, miel de bruyère, miel de châtaignier.
Celui-là j'adore.
Hein, qui est costaud. Hein.
Ouais, oui, qui est costaud, qui est puissant. Mais
belle
j'adore.
Amertume, dans un pain d'épices, le miel de châtaignier, j'adore. Ça donne du caractère, il a une belle robustesse. Et là je vous ai apporté deux miels assez rares. Le premier qui est transparent à côté de vous, enfin qui est clair si je puis dire, c'est le miel de buplèvre.
De
buplèvre, vous savez ce que c'est la buplèvre ?
Non, pas du tout.
C'est une plante qui pousse dans les Corbières, dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales. C'est une plante avec des feuilles en ombelle, comme on dit. Et alors allez-y, goûtez et dites-moi ce que vous en pensez.
Parce que citronné, délicieux.
Oui, un petit côté pain d'épices. Une petite amertume aussi. Ouais, c'est Thomas Guittard dans l'Aude qui est apiculteur et qui récolte ce miel, miel de buplèvre, qui est très très rare.
Comment on fait pour que les abeilles aillent que sur les buplèvres et pas ailleurs ? On
fait de la transhumance, effectivement. On met les ruches là où il y a le plus de plantes, effectivement, qui représentent cette variété. Et ensuite, il y a des analyses. Il est analysé, le miel, avant de pouvoir avoir une dénomination.
Comme s'il fallait retrouver de l'ADN dans le miel, de l'ADN de la plante.
Exactement, exactement. Et alors, l'autre qui est crémeux, regardez, c'est de le goûter plutôt. C'est un miel monofloral, c'est du miel d'arbousier.
Voilà encore, dites-nous ce que c'est que l'arbousier.
Très, très original.
L'arbousier, on connaît, vous savez, il y en a pas mal dans le sud. C'est ces arbustes avec des belles baies rouges.
Il est moins gourmand. Oui. C'est un miel, un miel qu'on met dans. Il est presque un peu amer.
Il a de l'amertume, exactement.
Il a beaucoup d'amertume.
On le met comme accompagnement à l'intérieur d'une recette. On ne peut pas le manger sur une tartine
beurre. On pourrait, mais on peut le mettre en pâtisserie, effectivement. On peut le mettre en pâtisserie sur des fruits rôtis, par exemple. Moi, j'aime bien les coings, c'est la saison des coings, des coings rôtis. Avec
tout seul,
par-dessus.
Tout seul, il est
costaud.
Il est
robuste, oui, absolument.
Les gaillards.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? On peut faire des bonbons, des pâtisseries, une nouveauté que je vous vois planquer sous votre chemise.
Oui, regardez, je vous la montre. Regardez, qu'est-ce que c'est ?
C'est des petits gâteaux.
C'est pas un gâteau, c'est une tablette de chocolat avec du miel, une tablette chocomiel avec du miel de châtaignier de Biapi.
Ah bah alors je vais me régaler.
C'est un collectif d'apiculteurs, c'est une association d'apiculteurs franciliens.
Biapi, c'est une abeille.
Chocolat, miel, et il y a de la propolis à l'intérieur. Vous savez, la propolis, c'est ce qui permet de lustrer.
C'est le miel du miel.
Voilà, exactement.
C'est la quintessence du miel.
C'est ce qu'utilisent les abeilles pour lustrer, pour nettoyer, puis pour prendre des forces aussi. Alors ça a son prix, ça coûte 22 euros. C'est Tristan Rousselot, qui est le chef pâtissier de l'hôtel Prince de Galles à Paris, qui a mis au point cette recette. Mais franchement, ça vaut le coup d'essayer. Et c'est pas trop sucré, on pourrait se dire. Le chocolat et le miel, c'est très sucré.
Il y a un peu de beurre salé aussi. Un peu de beurre salé.
Un petit peu de sel pour équilibrer, absolument.
Demain, Laurent, à la table des bons vivants.
Demain, à la table des bons vivants, on va passer nos habitudes alimentaires à la casserole avec le livre La France sous nos yeux de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casly. On va revenir sur nos habitudes alimentaires qui changent en France et on va faire ripaille avec Dominique Farrugia, qui est le fondateur de Cuisine TV, entre autres.
Merci beaucoup, Laurent Mariotte.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bruno Solo, on parlait de ce livre, Les visiteurs d'histoire. Vous êtes aussi en tournée pour la pièce 10 ans après, pièce de David Fuenquinos, dont vous étiez venu vous parler il y a 2 ans. Elle était à Paris, maintenant elle tourne, ça marche ?
Ah oui, on est ravis. Il semble que le théâtre, ça manquait aux gens. Et je sais que les débuts ont été un peu difficiles. Mais nous, en tournée, en tout cas, on n'a pas rencontré ça. Et les camarades que je croise en tournée me disent aussi, il y a une appétence très forte et les gens reviennent beaucoup au théâtre. Et ça fait plaisir.
Alors, Caméra Café, parce que vraiment, les gens attendent ça sur M6, pas en série, mais un téléfilm anniversaire.
Il y a des gens qui l'attendent pas
Même ceux qui n'aiment pas, ils vont le regarder pour se marrer. Ça
sera en 2022. Il y aura
pour nous chier dessus, ça dépend.
Il n'y a que lui qui peut dire ça. Il y aura toute la bande du début, Yvan Le Bolloc, Alexandre Pell.
On est tous là.
Et ça va être quoi alors? Parce que l'époque a changé.
Bah oui,
15 ans.
C'est pour ça, voilà, on raconte comment Jean-Claude Hervé et leurs collègues ont traversé ces années où nous n'étions pas à l'antenne, mais qui ont existé. Parce que c'est ça l'imaginaire de la fiction, c'est s'imaginer comment on a vécu. Donc ça part sur nous deux. Qui nous ont virés en faisant nos cartons. On remonte le temps en trouvant des objets, des photos, etc. Et on remonte le temps et on raconte comment Jean-Claude Hervé ont traversé les réseaux sociaux, les attentats, les hashtags MeToo, etc. Tous les bouleversements nécessaires et parfois dramatiques de cette société vue par Jean-Claude Hervé et leurs collègues. J'aime autant dire, ce sera affreux, sale et méchant, comme une vraie comédie italienne. Et M6 nous a laissé toute liberté, je tiens à le dire. De toute façon, c'était la condition sine qua non. On écrit exactement comme on veut, quitte à choqué, quitte à ce qu'on en parle. Ils ont accepté, c'est un bon deal. Ils ont plus travaillé sur les guests, nos invités et tout. Mais vraiment, je crois qu'on va faire un programme de 90 minutes. Hein. C'est un one-shot qui laissera des traces.
C'est écrit, c'est pas encore tourné.
C'est écrit, mais c'est pas encore tourné. On tournera janvier-février, je pense.
10h54, c'est le moment des stories de Lebré.
Yes.
Comme chaque jour, des stars viennent rencontrer nos invités. Ce matin, Franck Ferrand s'est intéressé avec biographie Bruno Solo.
Oui, c'est donc le 23 septembre de l'an de grâce 1964. Que naît Bruno Lassalle, que l'on connaît sous le nom de Bruno Solo. Un changement de patronyme, certainement pour éviter de se taper toute sa carrière de comédien, des blagues lourdes telles que la salle de spectacle, la salle de cinéma ou encore « On peut rentrer à combien dans la salle ?» Bruno Lassalle mène une enfance simple, accompagné de son frère Jean Lassalle, qui se fera connaître pour son rôle bien connu dans la série Caméra, votre café. Et qui est française, français. Je me présente et c'est Jean Solo. Oui, moi aussi, j'ai décidé de changer de nom, voyez-vous. Comme mon petit frère Bruno, le traître. Non mais tu n'as pas honte de renier tes origines du Berne, mon petit Bruno Lassalle? Donc, petit frère, j'ai ramené ce matin de quoi oublier ta faute et oublier tout court.
Il a vraiment amené une bouteille qu'il ouvre.
Tiens, d'ailleurs, Daniel Guichard, vous allez pouvoir passer ce petit verre au monsieur qui est à côté de vous. Et voyez, et je prends ça. Allez, allons expier tes péchés, frangin. Une gorgée pour t'excuser.
Aïe, jatz.
Voilà, merci beaucoup. Et une gorgée pour pardonner.
Oui, mais la deuxième gorgée, je crois que je ne vais pas pardonner. Hein.
Et le troisième,
parce qu'il faut le voir celui-ci. Hein.
Ouais, c'est de la piquette, du vin de table.
Château pique, château brutal.
Et une troisième, hein, parce que c'est bon, une troisième. Et voilà, vive la République. Et vive mon petit frère Bruno Lassalle, qui est revenu à la raison.
Ils sont vraiment fait un verre de vin chacun. Ouais, ouais. Cyril Hanouna, voulez-vous demander quelque chose, Bruno?
Salut mes petites beautés, ça va les chéris? J'adore. Eh hey, Bruno, je vous le dis, voilà. Bruno, c'est un amour. Hey, tu te rappelles, mon chéri, quand on était avec toute l'équipe de La Vérité si je mens et qu'on est allé sur le plateau de Stéphane Bern pour le décoiffer dans son émission? Tu te souviens, mon chéri? Oh, bébé, ça tombe bien, c'était magnifique. Tu sais quoi, mon nono? Moi, j'ai un rêve. I have a dream. Voilà. C'est qu'on se rapproche de Philippe Vandel avec sa coupe à la Franck Provost, là. On se rapproche de lui et je me décoiffe tout seul, les chéris. C'est magnifique. Oh, le gars, ça sera de ouf. Le gars a été en flip total. C'est magnifique. Oh,
et le père Foura de Fort Boyard avait absolument tenu à venir vous voir ce matin.
Moi, je suis juste venu parce que, il y a quelques années, Bruno Solo est venu à Fort Boyard et il a révélé tous nos secrets de tournage. C'est vrai, hein?
Absolument.
Oui, enflure, balance, poucave.
C'est comme ça qu'il m'a parlé.
Voilà. Donc, pour me venger, je vais donner en direct un numéro de téléphone. Attention. Tiens, mettez-moi la musique de mon énigme. Ça fera du suspense. Ah, je kiffe cette musique. Oh, ça me donne envie de twerker. Allez, suspense. Alors, 06 62 85.
Mais non, mais c'est mon numéro, ça. Non.
Allez, les auditeurs d'Europe 1, il ne vous reste plus que 99
donne
solutions
Bruno Solo
pour pouvoir appeler Philippe Vandel. Je suis une petite pute, moi, mais j'adore ça. Allez, santé.
Merci, Marc-Antoine Lebray, qui termine son verre. Tu peux te resservir. Merci à tous. C'est Lisa Marion,
qui
peut servir un verre aussi, avec modération. C'était le bon début.
Oui, c'est
on
ça.
Se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec Jean-Baptiste Boursier de BFM. On parlait de son rendez-vous BFM Politique le dimanche à midi. Et puis le DJ Bob Sinclair pour son nouveau single. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bien fait pour vous. Le programme du jour, ce sont les complexes et l'arrêt cardiaque. Je sais, ça n'a aucun rapport. Je vous dis bon week-end. À lundi. Salut Bruno Solo.
Merci beaucoup.